よ。
Thank you.
Et c'est ce Francis Boer qui, en 39, dès 39, dès le début de l'année 39, publie une lettre extraordinaire que je ne vous lis pas parce qu'elle est trop longue, qui sera publiée par Isidore Niepce dans son petit ouvrage, que j'ai repris en grande partie dans le mien, qui est le premier grand témoignage scientifique, par une personnalité scientifique du monde de la science du 19e siècle, Francis Boer. Un témoignage extraordinaire sur la haute valeur des travaux de Niepce en 1827. Il le dit en 1827, j'ai rencontré un Français, M. Niepce, qui m'a présenté, que j'ai gardé, que j'ai conservé, des travaux d'images prises, fixées dans la caméra obscura, et c'est des travaux que je possède encore, que je peux montrer, etc., etc. La plupart de ces travaux que Niepce a laissés en Angleterre sont maintenant à la Royal Photographic Society, à Bath, et parmi les travaux, il y avait cette image, la seule que nous connaissions, qui a été trouvée par Gernsheim en 1954 et qui est Austin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je m'arrête, on regarde quelques diapos très vite et puis la vidéo de Marinier qui dure 10 minutes pour montrer les. Marinier nous montre vraiment le travail de Niepce tel qu'il l'a fait. Bon, le portrait de Nicéphore Niepce, qui est un portrait posthume, fait par un peintre berger, que vous connaissez bien, qui est largement publié, je passe rapidement. Ça, c'est le père de Nicéphore Niepce, qui était non pas prêtre, mais en habit de juriste. Ça, c'était probablement la mère de Niepce, si on peut mettre au point, on peut mettre au point à l'appareil, je peux pas d'ici. C'est une belle image typique de l'époque révolutionnaire. Le profil m'intéresse aussi parce que on va commencer par faire des profils noirs sur blanc. C'est un certain professeur Charles, qui va essayer de fixer les images comme cela. Voilà, c'est silhouette. Vous savez que la silhouette était le nom d'un ministre des Finances sous l'Ancien Régime, qui s'appelait Monsieur de Silhouette. Comme toujours, les ministres des Finances, ils cherchaient à faire des économies. Et on se moquait de lui. Alors on disait, on inventait des costumes à la silhouette. Il n'avait pas de poche. Ce n'était pas la peine de mettre des poches, parce qu'il n'y avait rien pour mettre dedans. Alors c'était des costumes. Et puis les peintres se sont mis à faire des portraits à l'économie. On faisait juste ce qui est devenu la silhouette. Parce qu'on faisait des portraits à la silhouette, c'est-à-dire des portraits pas chers. C'était juste le. Et ce sont ces images-là que l'on va mettre sur des supports en selle d'argent, que l'on va essayer de fixer. Pardon, c'est le début de la photographie. Ça, c'est un portrait de Nicéphore. Je pense que c'est Nicéphore, c'est contesté. Certains disent que c'est Claude, mais c'est pas vrai. Ça, c'est Agnès Romero, sa femme. Ça, c'est Isidore, le fils de Nicéphore, vers 1840, par là, 30. Ça, c'est une vieille histoire que j'ai un regret. J'avais trouvé ce tableau à Sensei dans la branche de Sensei, enfin, chez les Nieps de Sensei, une descendante de Sensei, une dame charmante, mais qui était complètement, qui ne communiquait qu'avec les morts. Alors, elle faisait tourner des tables, tout. Madame Chenot de Lonlay s'appelait. Elle s'appelle, je l'enterre un peu vite. Et puis elle voulait vendre toute la maison qui était à côté de Sensei, là, et puis tout ce qu'il y avait dedans aussi. Et dedans, il y avait ce magnifique portrait représente le colonel David Niepce, c'est sa femme, qui était une Allemande de Bavière, colonel d'Empire, qui était un parent de Niepce, qui a beaucoup aimé. C'est ce colonel qui a mis en relation indirectement Niepce et Daguerre par Chevalier, par l'opticien parisien Chevalier. C'était au tout début du musée, j'avais pas beaucoup d'argent pour le musée, le temps que j'alerte le maire, tout, je dis il faut absolument acheter ce tableau, et puis il y avait en plus l'armure qui est là, qu'elle vendait avec le tableau, elle le vendait pas cher. Et puis ça a pris 2, 3 jours, j'ai même fait photographier ce tableau par Monsieur Lacoste à l'époque, là, le temps de trouver l'argent. Il y a un antiquaire qui est passé, je suis arrivé pour lui dire, ah, ça marche, tout, ça y est, on l'achète. Il n'y avait plus rien que la dame dans toute la maison. Alors du coup, j'ai essayé de faire acheter la maison aussi par la ville de Chalon, mais ça n'a pas marché non plus. Parce qu'en plus, elle ne vendait pas cher, c'était une bonne affaire. C'était une maison splendide, splendide, qui existe encore. Ça s'appelle d'ailleurs la maison Niepce. Sur la route entre Sensei et Jugy, par là, pas loin de l'autoroute, maintenant. Ça, c'est les frères Coste. L'un de ces Coste, je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre, a été maire de Chalon-sur-Saône dans les années 20, 1820. Ça, c'est des gens extraordinaires qui n'ont pas cessé de prêter de l'argent à Nicéphore avec une confiance époustouflante. Ces Coste-là, ont racheté une petite forge des environs de Chalon qui périclitait et ils se sont dit, allez, on va la remettre sur pied. Et cette petite forge, elle était au Creusot. Ça a été racheté quelque temps après par les Schneider. Ça, c'est la maison de la rue de l'Oratoire, où est né Niepce. Voilà, toujours, vous reconnaissez. Ça, c'est le domaine du Gras, dans une photographie de Loidreau, vers 1850. Ça, c'est toujours le domaine du Gras, le domaine du Gras Saint-Loup, dans une photographie de Petiot-Groffier. Vous avez la route nationale ici. Là, ici, c'est Lyon, là, Chalon. Le village est là, à droite. Vous avez le Gras ici. Ça, c'est très intéressante photo, parce que maintenant, ça n'existe plus, ça. Et tel que c'était photographié par Niepce, le pigeonnier, le toit de la volière, etc. Encore, le toit de la volière était perpendiculaire à ça, elle allait là-bas vers le petit bâtiment. La voie ferrée qui n'existait pas, bien entendu, passe là. Et alors, Marinier fait encore l'erreur, nom d'une pipe. On a tout dit sur la fenêtre d'où travaille Niepce. Alors, la plupart des gens disent que c'est la fenêtre du grenier. C'est sûrement faux, enfin, je ne vais pas vous dire pourquoi. Croyez-moi sur parole, mais je peux vous expliquer pourquoi. La fenêtre de Niepce où il travaillait, c'est celle-ci. Enfin, on a fait des travaux d'optique et tout pour voir pour comment ça se calcule. C'est celle-ci. Et à un moment donné, Niepce parle d'une fenêtre de la chambre de Claude qui donne sur la route. Alors, on ne sait pas très bien si c'est une fenêtre par là qui donne là. Ou Claude avait une maison ici, où il s'est installé dans la maison de Claude. Et avec une fenêtre qui donne face au Gras. On ne sait pas très bien. Alors les gens ont dit n'importe quoi, et puis toujours revient comme une obsession cette idée que Niepce travaillait dans son grenier. Mais non, au 18e, 19e, regardez chez les SNC, ça existe encore dans la demeure de Niepce, du colonel David Niepce. Son cabinet, le cabinet de ces intellectuels-là, était installé à côté du salon. Alors, où il y avait plein de fioles, de trucs assez spectaculaires, mais jamais ils allaient travailler ni à la cave, ni au grenier. Et puis, en plus, l'optique coïncide, là. Le domaine du Gratel, qu'il était vers 1950, il est à peu près pareil comme ça, chez Mme Pélissier. Voilà le congé de réforme. Oui, on dit qu'il voit presque rien. Et j'ai trouvé ce congé de réforme dans la collection d'Henriette Niepce, ici à Rueil, mais on ne le savait pas quelques jours avant l'impression du livre. quelques jours. Il a fallu que je rajoute ça, l'imprimeur, il a mis du sien, tout. Après plus de 10 ans de travaux, de recherche, il arrive toujours des trucs au dernier moment. Voilà les dessins du Pyriolophore, le bateau, là, et puis la machine, etc. Je passe vite. Ça, vous connaissez, le dessin. Vous voyez, c'est bien dessiné, hein. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas dessiner, comme on dit. Voilà, regardez, les reflets, tout ça, même les matériaux sont évoqués. C'est pas n'importe qui. On voit toujours, ah, c'est parce qu'il ne savait pas dessiner qu'il a inventé la photographie. Taratata. Ça, regardez le dessin de Claude. Claude, ça, regardez le dessin de Nicéphore, le même. Claude, c'est un peu plus hâtif, c'est un peu moins inventé et dessiné par nous. Joseph Claude Niépce, J.C. Claude, J.N., Joseph Nicéphore. Ça, c'est du Pasteur. Enfin, je n'ai pas parlé, je passe vite. La Brésienne, que vous connaissez. Une machine à courir, ça s'appelait. Une machine à courir. Il n'y a pas de pédale, hein? On a une lettre savoureuse de Claude qui dit à son frère qui lui parlait de la machine, là, de la Drésienne. Il dit je t'imagine dans ce pays aux routes si unies, si confortables, je t'imagine courant sur la route, etc. Pour aller à Saint-Loup, c'était impeccable. Le premier appareil photographique du monde, probablement. Il y avait une optique sans doute, sûrement même. Diaphragme iris, aussi étonnant, inventé par un Anglais au début du siècle, le diaphragme iris. C'est pas une invention de Niépce. C'est sans doute la chambre prêtée par Daguerre en exécution du contrat d'association de 1829, ça. Ça, cette petite chambre, elle m'intrigue beaucoup. Je comprends pas pourquoi il y a 3 trous. Ici, il y a un petit volet, une charnière de cuir. Derrière, il y a un rouleau. C'est manifestement une chambre noire. On a parlé peut-être un peu vite d'un premier appareil qui utilisait de la pellicule, j'en sais rien. Enfin, jamais Niépce ne parle de pellicule. Et puis, il n'avait pas intérêt à utiliser de la pellicule souple. On n'en était pas là. Ça, c'est la chambre claire de Wollaston dont je parlais, qui donne une image virtuelle. On regarde là-dedans, ça ne donne pas une image réelle. C'est un jeu de loupe qui donne... Vous regardez, alors il y a une espèce de prisme qui vous donne une image virtuelle sur du papier blanc. L'amusant, c'est que quand Nicéphore apprend l'existence de cette affaire, il dit chambre noire, j'obtiens un négatif, chambre claire, je vais obtenir un positif. Il en fait venir une d'Angleterre, s'il vous plaît, par son frère, une chambre claire, puis il se dit, mais non, ça, il n'y a pas d'image, elle est que dans l'œil, allez l'attraper là-bas. Là, les fioles de Niépce, je vais très vite. Voilà la première image de Niépce, qui est très mal reproduite. Vous savez, elle se présente comme une plaque de métal. Elle n'est pas du tout granulée comme ça, comme on en a, les reproductions qu'on en a. Je ne l'ai pas vue, moi. Il faut aller à Austin, au Texas, je ne sais pas, dans les promenades d'après-midi, du dimanche après-midi. Elle se présente comme une plaque très peu lisible, mais très unie au contraire. Une plaque métallique. Ça, c'est la table service. C'était une plaque de verre qui était à la Société française de photographie, qui a disparu à la fin du 19e siècle, sans doute cassée. Elle est attribuée à Niépce grâce à un témoignage de Davanne qui tient son témoignage d'Isidore. L'attribution est de la fin du siècle. Cela est contesté par quelques historiens. C'est vrai que Niépce ne parle jamais de photographie de nature morte. Le fameux cardinal d'Amboise, qui est à la photographie ce que la Joconde est à la peinture, le sourire en moins. Première reproduction de gravure. Tout cela, on l'a ici au musée, la Sainte Famille. Ce sont des reproductions de gravures héliographiques par M. Niépce, l'auteur à M. Daguerre. Pièce prodigieuse, bien sûr. Un paysage d'après le Lorrain, d'après Claude Gelée. Reproduction de gravure. Une gravure d'après Rembrandt. Tout ça sont des reproductions de gravures faites par Niépce. C'est des gravures qu'il achetait, là, chez dans le magasin de Chalon, qu'il faisait venir de Paris. La presse en taille douce de Niépce. Tout ça, vous le connaissez, c'est dans la salle. Un portrait de Daguerre par Nadar au pastel. Je vais très vite. Daguerre, qui était un décorateur de théâtre, un peintre de théâtre, et qui a inventé qui faisait le Diorama à Paris, qui était un spectacle où on voyait des grandes vues peintes comme ça, qui se fondaient, enchaînaient, et qui présentaient des vues de jour et de nuit. Vous voyez, c'est là, je reviens en arrière. C'est la même vue. C'est la nuit, c'est l'incendie. L'association de miettes et de daguerres dans l'imagerie d'Épinal, 1829. Dans une autre imagerie populaire, vous voyez ce pauvre miette toujours assis, là, vieillard fatigué, dans l'imagerie populaire. La beauté sur les biographies de miettes, l'écriture de miettes, 1829. Et voilà les images de, je m'arrêterai là, les images de Marinier, qui a pris le château d'Orsay, qui est le lieu du CNRS, le centre de recherche du CNRS. Voilà l'image telle qu'elle obtient. Voilà le bitume, là, avec la plaque qui est dénudée, la plaque de métal, là. Vous les voyez, elles sont exposées dans la salinière, ça les dit, en partant. La première étape, puis après, il fait noircir l'argent et il enlève le bitume. Ça donne ça, vous voyez. Je reviens en arrière. Première étape, vous voyez le bitume. C'est une image négative. Les noirs sont blancs, les blancs sont noirs. Avec le biodure d'argent, là, vous obtenez une plaque de métal. Vous voyez que vous avez une image d'une grande perfection.
Ça marche très bien.
La sucrerie, emblée.
Allô, ouais, c'est la radio du Grand Album.
Thank you. C'est un endroit merveilleux.
En fait, c'est peut-être une photo qui me redonne le moral.
La sucrerie, emblématique de l'histoire.
Eh bien, je m'appelle Françoise Fouché. Et c'est une photo qui elle montre ma maison dans un site qui va être très prochainement détruit par le passage d'une route, d'une nationale. Et cette photo me touche beaucoup parce que je pense que plus tard, je pourrais la montrer, ou la regarder, la montrer et dire que voilà, ça c'était ma maison. Et puis ce que je trouve aussi touchant, c'est mon chat qui me suit et qui se dirige vers moi. D'ailleurs, il ne me suit pas, il se dirige vers moi. Et lui non plus, il ne sera plus là dans quelques années, mais ça c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi j'ai eu envie de montrer cette photo et d'en parler comme un témoignage de quelque chose qui n'existera plus. Témoignage du passé, témoignage d'un passé qui n'est pas encore passé, qui est encore le présent. Et donc cette photo montre toute la complexité de l'image. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, je m'appelle Laurence Cros.
1, 2.
J'ai choisi cette photo parce qu'en fait, elle me rappelle, entre guillemets, mon pays. Moi, je viens de la montagne. Et puis, j'en suis partie pour venir m'installer à Lyon et puis maintenant donc, à Chalon-sur-Saône. Et ça me rappelle à chaque fois que j'ai pris le train, les allers-retours avec des vieilles Michelines. Voilà, ça me rappelle tout ça.
Alors cette photo, c'est le chemin que j'utilise pour aller jusqu'à mon travail. Je fais de la photo moi-même en tant qu'amateur. Et un jour, j'avais mon appareil dans ma voiture et il y avait du brouillard partout, le soleil derrière ce brouillard et cette longue route qui n'en finissait pas, et je l'ai pris en photo. Et elle retrace exactement ce que je pensais à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais en pleine recherche sur ce que je voulais faire, où je voulais aller, et ça représente exactement ça, c'est un long chemin qui n'aboutit à rien.
J'ai choisi une photo de Bernard Plossu pour un travail qu'il a fait sur Marseille en autobus, parce que ça me renvoie à des souvenirs d'enfance. Je suis né à Marseille et j'adore cette ville.
C'est un moment assez classique sur l'île-Dieu de petites tempêtes qui se caractérisent par des vagues qui viennent se briser sur les écueils et sur le promontoire du château. Comme c'est un lieu que j'aime, c'est un lieu que je retrouve par la photo quand je n'ai pas l'occasion d'y aller.
Voilà, cette photo me plaît parce qu'elle représente un arbre qui a 400 ans. Parce que c'est mon grand-père qui a représenté là, le premier, et que cet arbre a poussé dans la région, là, dans la forêt de Plus.
La force de la mer et en même temps la solidité du phare et du bonhomme, presque. Et en fait, on pourrait presque se demander, et alors, qu'est-ce qui se passe après? Il y a vraiment un moment qui est capté.
Ça représente tout le Val de Saône, une grande immensité. Ça m'a plu.
Là. En haut. Comme c'était la première fois que mon petit frère faisait
des vacances que j'avais adoré.
Parce que celle-là, il y a une petite fille, il y a un chien.
date, donc c'est une photo d'identité qui date des années 1955. En fait, c'est la date d'où. Peut-être même morte. Et enfin, c'est l'histoire de quelqu'un que je connais pas, quoi. Donc c'est très intriguant. Puis en même temps, c'est quelque chose de banal, quoi. Et avant, elle était sûrement dans un portefeuille bien rangé, en fait. Jusqu'à c'est quand je l'ai trouvé. Et je l'ai mis à côté de. Enfin, sur mon bureau, en fait, à côté d'autres photos. Et puis. Ben, je sais pas, mais il faut que je la regarde. En fait, ça date d'une époque, puis ça fait penser un peu à la vie, quoi. Au temps qui passe. Et à l'anonymat aussi. Enfin, parce que je suis sûre qu'il y a une histoire avec cette photo. Et la personne qui l'a perdue, elle se doute pas que je l'ai gardée et puis que je la regarde, quoi. C'est un peu comme une correspondante. Que j'ai pas retrouvé, quoi.
Ой, не пожалел, батюшка. Глянь, не пожалел.
Any sound, my love, what you running in dream long in
right in the faster road.
вот эти вот
отличительные все.
Один пошел.